Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno.
Bienvenue à cette première de la saison On parle techno, édition septembre 2023. Aujourd'hui, nous explorerons l'automatisation des processus en entreprise, un sujet on ne peut plus d'actualité. Pour ce faire, nous recevons deux experts en la matière, soit Joël Séguin, directeur vente et marketing chez Kesbert Expertise, et Éric Murray, directeur innovation, AIBI ou AIBI, et conseiller principal en technologie d'affaires aussi chez Kesbert. Bienvenue à vous deux.
Bonjour. Merci.
Quelques mots à votre sujet. Joël, vous possédez une expérience en tant que dirigeant d'entreprise qui vous permet d'avoir un regard différent sur l'importance de l'automatisation et sur son utilisation. Votre expérience comme spécialiste de la transformation numérique, quant à elle, vous permet de mieux comprendre les enjeux et défis reliés à l'utilisation des données comme vecteur de changement. Éric, vous êtes passionné d'innovation, vous cumulez 18 années en développement d'applications jumelées à trois formations du MIT sur l'implication de l'intelligence artificielle dans la stratégie d'affaires, l'apprentissage machine en affaires et en analyse des données pour l'amélioration de la prise de décision stratégique. Voilà bien entouré, vous êtes tous les deux très bien placés pour aborder le thème d'aujourd'hui. D'abord, une question très simple que je vous inviterai à répondre à tour de rôle. En même temps, question qui peut être complexe à la fois. De quoi parle-t-on quand on parle d'automatisation des processus? Joël, peut-être d'abord?
Donc, oui, effectivement, Marc, la différence ici, on ne parlera pas d'automatisation comme de la robotisation qu'on peut trouver dans les usines, mais bien d'automatisation de processus informatiques. Souvent, ce qu'on va regarder, c'est des processus qui sont répétitifs. C'est des entrées de temps, des choses qui sont faites et des activités qui sont faites par des humains. Les activités à faible valeur, qu'on va chercher à les automatiser pour pouvoir faire en sorte que nos humains travaillent sur des choses qui ont une plus grande valeur, qui sont plus motivantes pour eux.
Éric, tu peux compléter la réponse?
C'est une excellente réponse que Denis là. Il a volé la majorité de mes points. Mais tu sais, il faut voir un peu comme que Joël disait, l'automatisation des processus, c'est de voir une manière d'optimiser notre entreprise, la rendre plus efficace avec les gens qu'on a chez nous déjà, considérant qu'on vient d'une pénurie de main-d'œuvre, de pouvoir aller chercher quelques heures par-ci par-là de toute l'équipe pour faire plus de choses. Ben, l'automatisation de processus est un grand outil pour faire ces éléments-là. Donc, on parle de meilleure efficacité, une meilleure qualité de l'information, moins de risques d'erreur. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis en place qui font en sorte que notre entreprise, comme un tout, devient plus efficace.
Pourquoi c'est rendu indispensable au niveau d'une organisation de passer à un niveau d'automatisation? Là? Quel changement ça va apporter dans une équipe, dans les rapports avec leur clientèle? Tu sais, l'automatisation, ça peut être large, comme vous l'avez expliqué, ça peut être précis.
Comme je disais un peu tantôt, on était dans une pénurie de main-d'œuvre, donc il y a des éléments, des tâches qui devaient être faites, ou des fois, il y a un besoin qui grandit. Mais on a tout le temps le même effectif humain pour faire des travaux. Donc, en ayant une automatisation de processus, on vient raccourcir les délais. Donc, des fois, ça fait la différence entre on répond à notre client la journée même versus on répond dans quelques jours. Dans un contexte d'automatisation de processus, par exemple, si on a une demande d'achat, par exemple, qui doit être faite parce qu'un produit doit être fait pour un client en particulier, le processus serait déclenché de manière automatique. On s'assure que toute l'information est là et il y a des rappels qui sont envoyés de dire « Hey, c'est urgent, il faudrait avoir un suivi dans 2 heures. » Donc, il y a un suivi qui se fait de manière automatique. Donc, comme je disais, au lieu d'avoir envoyé le produit au client dans une semaine, peut-être que c'est dans 2 jours. Donc, on vient avoir une efficacité sur le marché. Donc, notre réputation est meilleure aussi. C'est pas seulement de dire « On est plus efficace », mais d'une perspective externe, on est plus rapide à sortir ce qu'on a besoin de sortir pour nos clients. Donc, la satisfaction des clients est là. On a une augmentation, justement, des bons commentaires sur le marché. Et les gens sont heureux de travailler parce qu'ils font des travaux à valeur ajoutée, ils se sentent utiles à l'entreprise. Donc, on a tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc, on garde notre effectif. On peut grandir au lieu de perdre des gens parce qu'ils font des travaux à entrer des données dans un Excel 20 heures par semaine. Ça peut changer la perspective quand quelqu'un vient nous approcher pour autre chose.
Je vais vous demander de nous parler un peu plus spécifiquement là, des technologies AI, ABI. Qu'est-ce que ça représente comme nouveauté? Puis qu'est-ce que ça peut, en quoi ça va pousser à aller encore plus loin l'automatisation? Si on pense, mettons, à l'interconnexion des différentes applications, au groupe d'outils Power Platform qu'on entend, là, concrètement, là, qu'est-ce que ça permet?
Dans le fond, ce que ça, la grosse partie de cette équation-là, que je dirais, oui, on entend beaucoup parler de l'AI, l'intelligence d'affaires. Mais si on regarde au niveau BI, une des choses sur lesquelles on peut se concentrer, c'est que là, on a une donnée. Tout le monde a des données dans une entreprise. Puis maintenant, on a la capacité de faire du sens de nos données. À partir du moment qu'on les fait parler, qu'on raconte l'histoire de notre entreprise dans un tableau de bord, là, ça devient intéressant de prendre des décisions. Ça devient intéressant de voir où est-ce qu'on peut automatiser, où est-ce qu'on peut gagner du temps, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de montage, dans notre prestation de service, dans nos ventes. La donnée devient une donnée de plus grande qualité quand que peut-être jusqu'à maintenant, cette donnée-là était enfouie quelque part, puis c'était vraiment fastidieux d'aller faire un rapport pour la faire sortir. Là, on l'a devant les yeux, puis elle peut bouger en temps réel. On peut vraiment prendre des décisions beaucoup plus rapides. Puis quand on regarde l'intelligence d'affaires, ben c'est ça, dans le fond, c'est de faire du sens de toutes les données qu'on a accumulées au fil du temps. Des fois, on a des vieilles, vieilles, vieilles données qui peuvent redevenir pertinentes parce qu'on réussit à les mettre dedans.
Éric, quelque chose à ajouter?
Dans le fond, Joël a abordé le côté tableau de bord, raconter une histoire, s'assurer que tout le monde a la même vérité, mais en arrière de tout ça, si on regarde plus le côté automatisation, maintenant on a accès à des données qui peuvent déclencher des choses. Par exemple, tu sais, si on prend le feedback des clients, mettons, tu sais, maintenant avec Facebook, Instagram, les différents e-commerce comme Amazon, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent arriver pour nos produits. Chose qu'avant, on l'avait pas nécessairement directement à nous. Maintenant qu'on peut aller récupérer cette information-là, ben, on peut aller faire un déclencheur et dire, ah, maintenant, j'ai reçu un commentaire neutre ou négatif. Je vais aller voir c'est quoi. Je vais aller questionner pourquoi, on a reçu ce commentaire-là. Donc, on a un déclenchement qui se fait là sur une donnée qui était cachée en arrière, que pas nécessairement on voyait ou on cumulait de temps en temps. Mais par-dessus ça, si on prend via, Microsoft et les services cognitifs d'intelligence artificielle. Maintenant, on pourrait prendre le commentaire, l'analyser, puis voir le sentiment et sortir les éléments importants du client. Dans son commentaire, il nous dit, ah, il y a eu un défaut de fabrication, la pièce a brisé après 2 jours. Donc, l'intelligence artificielle serait capable de venir chercher des points et de dire, voici les problèmes que cette personne-là a soumis. Donc, quand quelqu'un appelle, c'est déjà de quoi parler. Il se prépare à discuter de ces éléments-là. Il n'y aura pas de surprise. Donc, l'effet est qu'on va chercher du feedback très rapidement sur notre produit, qu'est-ce qui est arrivé, mais en même temps, on est capable de discuter avec le client de sa problématique, d'avoir des solutions déjà avant et non de juste être en mode réactif et dire, je vais vous rappeler, je vais aller parler à des gens. Non, on arrive, on a une première réponse, on a déjà des réponses.
C'est le fun, surtout quand on sait qu'un client content va le dire à une personne, mais un client mécontent va le dire à 10. On vient peut-être de justement court-circuiter cette spirale-là qui n'était pas nécessairement captée avant ou qu'on captait une fois sur 20. Excellent, excellent
Peut-être
exemple.
faire
Merci. Oui, vas-y.
un petit ajout, Marc. C'est à faire, mais ce qu'Éric dit, là aussi, ça peut prendre une importance dans le sens que au niveau du tableau de bord, on peut relever quand les commentaires sont négatifs. On peut avoir aussi une quantité qui nous est présentée. Si on voit le nombre de sentiments négatifs augmenter, on a peut-être un problème sur une chaîne de montage, on a peut-être une machine qui a un défaut, qui a besoin d'un ajustement. Ça a aussi un impact financier à partir du moment qu'on peut l'identifier. Avant, on ne pouvait peut-être juste pas l'identifier.
Excellent lien. En fait, c'est un ensemble, hein, qui est interrelié dans tout ça. Je le sais, là, puis je l'entends moi-même, là, quand je jase avec d'autres entrepreneurs en techno, là, il y a encore une certaine résistance, là, à épouser le changement ou l'automatisation. Ah, c'est dur auprès de mes employés, ils ont toutes peur de perdre leur job. Tu sais, il y a des facteurs, là, qui viennent influencer la vitesse à laquelle on peut embrasser l'automatisation ou la mettre à profit. Vous qui le faites chez vous, mais aussi chez vos clients, là, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette résistance-là?
Ça existe, la résistance au changement. C'est pour ça que d'avoir un bon plan avant de commencer le travail, juste pour identifier, par exemple, les risques potentiels humains. Parce que ce qui arrive, c'est que dans un cadre d'automatisation de processus, il y a des gens qui vont être affectés, c'est sûr. Si on ne les prépare pas, c'est comme de dire, il va y avoir un expert externe qui va arriver, va venir te poser des questions sur ce que tu fais. Quelqu'un qui n'est pas prêt à ça va sentir que, oh boy, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Pourquoi je suis audité sur mon travail? Une approche, c'est de voir à d'approcher l'élément de manière positive, de dire je viens t'enlever quelque chose qui, on va dire, clérical, qui se répète toujours, qui vient prendre du temps, qui est juste de rentrer des données. Puis de dire avec ce temps-là, voici ce que tu pourrais faire. Puis là, c'est là qu'on va venir aborder peut-être des changements de rôle. Dans le fond, les ressources humaines vont être impliquées parce que je l'ai déjà vu un cas où ce que une personne était assignée à faire de l'entrée de commande avant la digitalisation des commandes. Cette personne-là recevait des papiers, devait les retaper dans le système, faisait ça demi-semaine environ. Ben, quand on a approché la personne, on a fait, qu'est-ce quelque chose que t'aimerais faire? Puis là, l'employeur a fait, t'aimes travailler avec les données. Pourquoi pas qu'on te donne un rôle de justement gérer des rapports pour les commandes. C'est ton expertise, tu les as tapés pendant des années. Donc, il y a eu une transformation de rôle. La personne s'est sentie impliquée dans cette transition-là. Donc, la gestion du changement a été naturelle, la personne a embarqué. Donc, vraiment, quand on arrive dans des contextes comme ça, il faut préparer, avoir un plan, s'assurer de lever les points à risque. Des gens qui sont plus près de la retraite, ça va être plus difficile. Des fois, les gens qui commencent, ben eux, c'est l'apprentissage. Donc, vraiment, il faut voir quel type de personnes dans le processus, quel genre d'impact que ça a, puis aller voir les gens, puis travailler avec eux, qui se sentent impliqués et non l'inverse, c'est-à-dire qui se sentent imposés.
C'est des domaines des TI où les RH là, ont une grande place là, quand on parle d'automatisation des processus. Joël, avais-tu d'autres points par rapport à la résistance? Toi qui es peut-être plus du côté vente, tu le vois peut-être. Est-ce que c'est-tu les gens d'opération qui sont plus résistants? C'est-tu les gens de TI justement?
Tout le monde, ça toujours de la réceptivité au changement. Donc, je pense qu'Éric a touché le bon point, c'est de préparer, aussi de valoriser la personne en lui disant, ben oui, ton poste te transforme, cependant, voici les opportunités devant toi. Ça peut être formatif, on peut t'envoyer en formation pour t'amener ailleurs, on peut te réaffecter. Donc, je pense que c'est la seule constance, hein, c'est le changement, on le sait, là. Puis ça aura toujours été, je veux dire, les usines, à un moment donné, il y avait beaucoup de travail avec de bras, ben tranquillement, il y a eu de la robotisation. On le vit depuis toujours, ces changements-là. C'est juste que là, on est dans quelque chose de très précis. On descend jusqu'à la personne sur son travail précis, sur certaines tâches que cette personne a fait. On les fait ça, on les transforme.
Comme peut-être dernière question, je vous demanderais, si vous êtes là-dedans au quotidien, là, qu'est-ce qui reste à améliorer ou à développer dans le domaine là, de l'automatisation pour répondre à la demande d'efficacité de vos clients? Puis qu'est-ce qui va arriver comme avancée là, dans ce domaine-là, dans un futur proche ou peut-être futur pas trop proche, mais pas non plus en 2080, là?
C'est beaucoup l'intelligence artificielle qui s'en vient. L'intelligence artificielle s'en vient pour aider, hein, à mettre en place ces processus-là. Il y aura une façon différente maintenant de les développer et de les mettre en place. Ou est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle la tâche que je viens de faire, j'aimerais que ça se fait déjà. J'aimerais que tu l'observes et que tu l'automatises. Mais ça va avancer, ça va se faciliter. Ce que ça va amener, c'est qu'au niveau des firmes comme nous, on aura toujours la capacité d'aider avec le déploiement, mais aussi la gouvernance de tout ça. Parce que c'est beau de dire, ça deviendra plus facile pour les utilisateurs de eux-mêmes créer certaines automatisations, mais il ne faut pas perdre le contrôle non plus, il faut avoir une visibilité sur tout ça. Il y a vraiment des gros efforts qui sont faits. Là, on a vu les ChatGPT, Microsoft s'est approprié cette technologie-là, l'a intégrée dans ses outils sous un autre nom qui s'appelle Copilot. Ça devrait faire en sorte que les gens, le déploiement de solutions informatiques devrait se simplifier. Mais ne jamais sous-estimer quand une partie se simplifie, tout ce que ça peut engendrer par la suite comme besoin.
C'est qu'il y a un certain danger de perte de contrôle si on n'a pas un plan, puis si on sait pas trop, si on n'organise pas justement ces changements-là à venir, là, tu sais.
Ben oui, parce que ça reste de l'informatique. Puis si on ramène ça à la base de l'informatique, des fois il y a des conflits qui peuvent se passer à l'arrière si on n'a pas un plan très clair, si on n'a pas établi un ordonnancement sur la façon qu'on déploie ces solutions-là. Ça prend quelqu'un qui a un aspect d'ingénierie au niveau de comment on va le développer dans l'entreprise pour qu'éventuellement on atteigne une cible et qu'on le fasse d'une manière très, très structurée, qu'on gère les humains aussi qui vont le subir en même temps. Pour eux, c'est quand même, comme on disait tantôt, un gros changement.
Éric, avancées technologiques là, qui vont influencer ça, t'en vois-tu à l'horizon?
Oui, mais en fait, tu as commencé la question en disant qu'est-ce qui manque un peu, ou pas qu'est-ce qui manque technologiquement, mais qu'est-ce qui manque comme sensibilisation, c'est que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme ça va révolutionner le monde. Oui, c'est vrai, mais un élément qu'on oublie, c'est que c'est main dans la main avec l'être humain. Je vois pas, tu sais, oui, il y a des affaires qui vont arriver dans l'intelligence artificielle où est-ce que tu peux le laisser aller tout seul, mais il y a tout le temps quelqu'un qui doit être là pour travailler avec l'intelligence artificielle pour le rendre efficace pour nous. Il n'y a pas d'élément qui dit que on va le laisser aller, puis il va tout faire. Non, il y a un élément, comme Joël dit, il y a des choses en arrière qui doivent se passer, il y a des gens qui vont vérifier. Dans l'analyse d'événements, mettons en sécurité, on en parlait mercredi, dans un événement de sécurité anormal, mais l'intelligence artificielle va dire, ah, c'est pas normal, j'ai jamais vu ça avant. Il va pas décider quoi faire avec ça, il ne le sait pas. Donc, il y a quelqu'un, un être humain qui dit ça, c'est un faux positif ou c'est un faux négatif, tiens-en pas compte, ça arrivera pas. T'sais, il y a ces éléments-là qu'il faut pas oublier, que l'intelligence artificielle doit travailler avec l'être humain. Donc, il y a tout le temps des gens qui doivent être là pour maintenir et l'aider à s'entraîner à ces éléments-là. L'intelligence artificielle va être beaucoup plus présent dans l'aide décisionnelle aussi. C'est comme l'exemple que je viens de donner, c'est il y a quelque chose de normal, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou encore, surtout, mettons, si je prends notre domaine à nous en service TI, un client envoie un courriel avec un long texte d'éléments qui est problématique. L'intelligence artificielle va lire le texte, va le comprendre, va savoir quel sujet. Et à un certain point, d'ailleurs, on peut dire, bon, mais c'est tel sujet, telle compétence. Puis après ça, on va voir notre système de disponibilité pour dire, OK, c'est cette personne-là qui est disponible maintenant. Je lui envoie le ticket immédiatement. L'efficacité qu'on vient gagner avec le fait que l'intelligence artificielle peut traiter l'information déjà à l'avance, après ça, de l'envoyer à quelqu'un directement, fait en sorte que les gens qui attendent, quand tu envoies un billet au service TI, des fois, tu peux attendre, là, tu attendrais beaucoup moins, puis la personne saurait déjà c'est quoi le problème, puis à un certain point, un peu avec l'exemple de Joël sur ChatGPT, on a fait un prototype chez nous en utilisant la même technologie, mais basé sur nos informations à nous, donc on peut poser des questions sur nos clients de manière technologique ou notre information à nous, donc imagine qu'en plus d'envoyer le ticket à la personne, j'y donne déjà la piste de solution connue parce qu'on l'a déjà faite avant. On gagne en efficacité, mais on a besoin de l'intelligence artificielle pour déterminer tous ces éléments-là. Et après ça, l'automatisation pour l'envoyer à la bonne personne.
Bon, un bon lien. Merci à vous deux. Dans le fond, j'entendais une des sommités en intelligence artificielle dire c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre la job des gens. C'est les gens qui ne sauront pas s'en servir, qui vont être déclassés probablement dans un futur proche. Fait que ça résume exactement ce que vous expliquez. C'est ce qui conclut notre discussion. Merci beaucoup, Éric Murray et Joël Séguin, de nous avoir éclairés sur la question. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de la programmation et des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marquantes de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de On parle techno.